cours de biologie végétale. Introduction générale. Les plantes à fleurs, ou phanérogames, dont le nom vient du grec phanero signifiant apparent et gamo signifiant union, sont les plantes les plus évoluées. Elles constituent dans la nature actuelle la majorité des peuplements terrestres. L'activité physiologique et la différenciation cellulaire y sont très marquées. Les plantes supérieures présentent plusieurs parties distinctes, appelées organes, ayant chacune une structure et des fonctions propres. L'appareil végétatif est typiquement constitué de racines, de tiges et de feuilles. Les organes reproducteurs, les fleurs, conduisent à la formation des graines, d'où le nom de spermaphyte, du grec sperma signifiant semence, donné à cet ensemble. Les plantes sans fleurs, ou cryptogames, dont le nom vient du grec crypto signifiant caché et gamo signifiant union, sont constituées des algues et des champignons. Ce sont des plantes adaptées aux milieux aquatiques ou très humides. L'appareil végétatif ne présente pas de parties distinctes comme chez les plantes supérieures. Historiquement, les cryptogames constituent un vaste ensemble comportant les algues, les champignons, les bryophytes et les ptéridophytes. Il est maintenant bien établi que les champignons forment un règne à part et que les algues ne forment pas un groupe monophylétique, c'est-à-dire issu d'un ancêtre commun unique. L'étude des algues vertes, des bryophytes et des ptéridophytes illustre néanmoins le passage d'organismes unicellulaires à des individus pluricellulaires de plus en plus complexes, dont les espèces les plus évoluées ont réalisé la conquête du milieu terrestre. C'est pourquoi on présente également les préphanérogames, groupes intermédiaires qui, en prenant le relais des ptéridophytes, ont réalisé l'ovule ou prégraine, étape essentielle dans l'évolution de la reproduction sexuée et du cycle de développement. Première partie. Organisation des plantes à fleurs. Chapitre 1er. La cellule végétale. Introduction. L'observation au microscope de divers fragments végétaux montre que la substance qui constitue ces organes n'est pas homogène et continue. Elle est subdivisée en compartiments, décrits pour la première fois en 1567 sur un fragment de liège par le physicien anglais Robert Hooke, qui leur a donné le nom de cellules. Par la suite, plusieurs études ont montré que toutes les parties des végétaux étaient faites de cellules. On peut donc dire que les végétaux ont une structure cellulaire. Première section. Anatomie de la cellule végétale. Tous les êtres vivants, à l'exception des procaryotes, sont constitués de cellules parfaites, très comparables entre elles dans leur organisation et leur fonctionnement. Toutes les cellules ont en commun un cytoplasme, un noyau et son nucléole, deux réticulums endoplasmiques, un appareil de Golgi, des mitochondries et des peroxysomes, ainsi qu'un cytosquelette fibreux. Cependant, la cellule végétale se distingue de la cellule animale par trois caractères propres, la paroi pectocellulosique, des vacuoles très développées et des plastes dont certains assurent la photosynthèse. Premier point. La paroi cellulosique ou pectocellulosique. Contrairement à la cellule animale, qui est généralement nue, la cellule végétale est entourée d'une paroi renforcée d'un dépôt cellulosique. La membrane plasmique de la cellule végétale est doublée extérieurement par cette paroi, qui devient rigide au terme de la différenciation cellulaire. La cellulose est un polysaccharide dont la molécule est formée de milliers d'unités de glucose assemblées en une chaîne droite. C'est le composé organique le plus abondant à la surface du globe. La paroi est formée de plusieurs couches. La paroi primaire permet la multiplication cellulaire, les parois secondaires permettent l'allongement, et la paroi ne devient plus déformable une fois la différenciation cellulaire achevée. Elle est interrompue par des pores appelés plasmodesmes, qui assure une continuité entre les cytoplasmes de cellules adjacentes et facilite les échanges entre cellules végétales voisines. Deuxième point. Les vacuoles. Les vacuoles sont des cavités creusées dans le cytoplasme, propres à la cellule végétale, remplies d'un liquide appelé suc vacuolaire. La concentration du suc vacuolaire est très élevée par rapport à celle du cytosol et des liquides extracellulaires. L'entrée d'eau dans la cellule provoque une turgescence, c'est-à-dire une pression hydrostatique dans la cellule, équilibrée par la résistance de la paroi. Cette pression permet un allongement beaucoup plus rapide de la cellule végétale que ce que l'on observe dans les cellules animales. Les vacuoles contiennent des substances de réserve comme des glucides, mais aussi des réserves protéiques, des pigments, des alcaloïdes, des tanins, des résines ou du latex, ainsi que des substances qui cristallisent dans la vacuole comme les oxalates de calcium. Troisième point. Les plastes. Les plastes sont des organites caractéristiques des végétaux, absents chez les procaryotes et les champignons. Les chloroplastes, des plantes supérieures, sont des organites ovoïdes pouvant atteindre 10 micromètres de longueur. Ils sont le siège de la photosynthèse, réaction chimique qui occupe la première place parmi tous les phénomènes chimiques ayant lieu sur Terre. Cette importance est due à la masse des substances mises en jeu, à la production de glucides essentiels pour l'ensemble du monde vivant, et à l'émission d'oxygène nécessaire à la vie aérobie. Le chloroplaste est entouré de deux membranes. À l'intérieur, une troisième membrane forme par ses plis des vésicules de thylakoïdes dont l'empilement constitue le granum. Les capteurs lumineux, chlorophylle et enzymes producteurs d'ATP, sont situés dans les membranes des thylakoïdes. Le glucose produit par la photosynthèse se polymérise en amidon qui apparaît sous forme de granules dans les chloroplastes quand la synthèse est active. Les leucoplastes, du grec leuko signifiant incolore, sont des organites voisins des chloroplastes mais sans chlorophylle, particulièrement abondants dans les tissus de réserve. Ils contiennent des protéines, dans ce cas on les appelle protéoplastes, ou de l'amidon, on les appelle alors amyloplastes, ou encore des lipides, on les appelle oléoplastes. Les chromoplastes, du grec chroma signifiant couleur, ont une organisation semblable à celle des chloroplastes mais portent des pigments autres que la chlorophylle, tels que les caroténoïdes. Ils colorent de nombreux organes végétaux, notamment les fleurs et les fruits, et peuvent se différencier même dans des organes que la lumière n'atteint jamais, comme les racines de carottes. Deuxième section. Les méthodes d'étude de la cellule végétale. La cytologie est la science qui étudie la cellule. On distingue l'étude de la cellule vivante, qui peut se faire par observation vitale sans coloration, par coloration vitale à l'aide de colorants dilués pénétrant dans la cellule, ou par microdissection à l'aide de microtilles. L'étude de la cellule tuée se fait par coloration post-vitale ou par fixation, c'est-à-dire par l'utilisation d'une solution qui tue rapidement la cellule en maintenant en place les divers éléments. Les fixateurs courants incluent l'alcool, le formol ou l'acide acétique. Chapitre 2. Le système racinaire. Introduction. La racine est habituellement souterraine, ce que l'on appelle le géotropisme positif ou phototropisme négatif. Elle est spécialisée dans l'absorption de l'eau et des sels minéraux, la fixation de la plante au substrat et l'accumulation de réserves. L'ensemble des racines d'une plante constitue l'appareil racinaire. Une de ses caractéristiques est sa grande longueur, habituellement supérieure à celle de la partie aérienne de la plante. Première section. Apex racinaire et rhizogénèse. La croissance racinaire est strictement subterminale. C'est au niveau de l'apex, c'est-à-dire de l'extrémité de la racine, que se situent les sites responsables de la rhizogénèse, du grec rhizo signifiant racine. Les cellules les plus actives, celles qui se divisent abondamment, forment une zone dite zone de prolifération subapicale. Ces cellules présentent les caractéristiques cytologiques de cellules embryonnaires. Elles sont de petite dimension, leur noyau occupe la totalité du centre cellulaire, et leur cycle est rapide, pouvant atteindre 2 cycles par jour. À l'avant et à l'extérieur de ce centre quiescent se trouve la zone d'entretien de la coiffe. La formation des racines latérales intervient à quelques centimètres de l'apex, après la différenciation des tissus primaires. Des cellules du péricycle, c'est-à-dire de l'assise imitant le cylindre central, prolifèrent pour former le primordium d'une nouvelle racine. L'origine des racines latérales est donc profonde, c'est-à-dire endogène. Deuxième section. Différenciation dans la racine. Le système racinaire est dipivotant lorsque la racine principale reste dominante, comme chez le soja ou le lupin. Lorsque les racines latérales prennent le dessus sur la racine principale, l'appareil racinaire est difasciculé, comme chez le maïs. C'est dans la région bien aérée du sol, où l'humidité est optimale, que l'extension racinaire est la plus favorisée. Structure de la racine. On distingue plusieurs parties. La coiffe est une sorte de capuchon recouvrant l'extrémité de la racine. Elle joue un rôle protecteur et facilite la pénétration de l'apex entre les particules du sol grâce à son mucilage. Elle est le site de la géoperception, c'est-à-dire de la perception de la gravité qui oriente la croissance racinaire. Les amyloplastes volumineux présents dans les cellules de la coiffe tombent à la base des cellules sous l'effet de la pesanteur. Ils agissent comme des statolithes, par analogie avec les particules de l'oreille interne responsables de l'équilibre chez les animaux. Le rhizoderme ou assise pilifère est l'assise superficielle de la racine. Certaines de ces cellules, les trichoblastes, évoluent en poils absorbants qui s'insinuent entre les particules du sol. Chez les herbacées, leur nombre peut dépasser 10 à 15 milliards pour un seul plant de seigle. Le parenchyme amylifère est riche en espaces intercellulaires et joue un rôle de réserve. La racine constitue un tubercule lorsque ce parenchyme est très développé. L'endoderme constitue la limite interne de l'écorce. Ces cellules, dotées d'un cadre subérifié, forment une assise très jointive qui interrompt le gradient de succion et contrôle le passage de la sève vers le cylindre central. Le cylindre central a essentiellement un rôle conducteur. Il renferme le xylème, qui assure le transport de la sève brute, et le phloème, qui assure le transport de la sève élaborée riche en produits d'assimilation. Les tiges souterraines. Lorsque la tige est partiellement ou totalement souterraine, on distingue plusieurs types d'organes. Le rhizome est une tige souterraine tubérisée simple ou ramifiée. Les tubercules sont des organes massifs formés par l'hypertrophie des extrémités de stolon, c'est-à-dire de tiges souterraines horizontales minces. La pomme de terre en est l'exemple classique. Les bulbes sont des organes constitués d'une tige souterraine courte portant des racines adventives sur sa face inférieure et des feuilles charnues gorgées de réserves sur sa face supérieure. L'oignon en est un exemple bien connu. Chapitre 3. Tiges et feuilles. Introduction. Les organes aériens comprennent essentiellement la tige et les feuilles. Les feuilles se présentent comme des appendices latéraux de la tige formant un axe. Tige et feuilles naissent simultanément dans le point végétatif collinaire, du latin col signifiant tige, et forment un ensemble indissociable d'unités nées successivement. Première section. Le point végétatif collinaire, la tige. La tige est un axe le plus souvent aérien portant des feuilles. Les feuilles sont insérées latéralement au niveau des nœuds, et à leur aisselle se trouvent un ou plusieurs bourgeons axillaires pouvant donner des rameaux latéraux. Les parties entre deux nœuds successifs forment les entre-nœuds. La phyllotaxie, ou arrangement des feuilles sur la tige, est régulière et caractéristique de l'espèce. On distingue les dispositions verticillées, opposées décussées et alternes. La tige est généralement dressée, présentant un géotropisme négatif et un phototropisme positif. Elle assure le support et la ramification du système aérien et met en communication les organes absorbants avec les organes assimilateurs. La croissance en longueur de la tige est assurée par les bourgeons terminaux ou apicaux. Elle est dite monopodiale lorsque le bourgeon est à croissance indéfinie, et sympodiale lorsque le bourgeon terminal avorte au profit des fleurs et que la croissance en longueur est assurée par des bourgeons axillaires. On distingue plusieurs types de pores. Une plante dressée présente une tige verticale. Une plante prostrée présente une tige couchée horizontalement. Une plante radicante a une tige couchée et fixée au sol par des racines adventives. Une plante volubile s'enroule par sa tige autour d'un support. Une plante grimpante s'élève en s'accrochant à un support grâce à des organes spécialisés comme des vrilles ou des racines adventives. Deuxième section. La feuillée. Les feuilles sont typiquement aplaties, ce qui leur permet d'utiliser au maximum la lumière solaire et d'augmenter la surface d'absorption du dioxyde de carbone. Grâce à leur richesse en parenchyme chlorophyllien, elles sont les organes assimilateurs de la plante. Une feuille est formée de trois parties. Le limbe est la partie large aplatie assurant la photosynthèse. Sa nervation peut être parallèle, surtout chez les monocotylédones, pennée ou palmée chez les dicotylédones. Le pétiole constitue l'axe qui porte le limbe. Une feuille sans pétiole est dite sessile. La base foliaire comporte le bourgeon axillaire et une gaine plus ou moins développée portant des stipules ou leurs équivalents. Les plantes dont les feuilles tombent à chaque saison froide sont dites à feuillage caduque. Un végétal au feuillage toujours vert est appelé sempervire. Troisième section. Différenciation dans la feuille et la tige. La mise en place de la structure primaire des feuilles et des tiges conduit à quatre ensembles structuralement distincts. L'épiderme, assise de cellules superficielles en contact avec l'atmosphère. Les parenchymes, qui forment la masse principale. Les tissus de soutien, qui assurent la rigidité de l'organe. Et les tissus conducteurs différenciés dans le procambium. L'anatomie foliaire est relativement simple au stade adulte. La feuille est formée d'un épiderme supérieur et d'un épiderme inférieur riche en stomates. Un tissu médian très chlorophyllien, le mésophylle, se situe entre les deux épidermes. Il est différencié en parenchyme palissadique, constitué de cellules prismatiques alignées et riches en chloroplastes qui est le siège de la photosynthèse, et en parenchyme lacuneux, constitué de cellules en forme lobée laissant de larges espaces aérifères qui assurent les échanges gazeux. Chez les dicotylédones, les faisceaux conducteurs se répartissent sur un cercle autour de la moelle formant une couronne vasculaire. Chez les monocotylédones, les faisceaux apparaissent dispersés dans l'ensemble de la tige et dépourvus de formations secondaires. Chapitre 4. Les tissus végétaux. Introduction. Les tissus végétaux sont issus des méristèmes, c'est-à-dire des cellules indifférenciées en mitose permanente situées dans les parties jeunes de la plante. Les méristèmes primaires donnent les tissus initiaux, et les méristèmes secondaires produisent des tissus permettant l'accroissement en épaisseur. On distingue les tissus de protection, les tissus de soutien, les tissus d'assimilation, les tissus de réserve, les tissus de sécrétion et les tissus conducteurs de sève. Première section. Les tissus primaires. Premier tissu. les parenchymes. Les cellules parenchymateuses sont considérées comme la forme typique de la cellule végétale. Chacune est pourvue d'une vacuole représentant plus de 80% du volume cellulaire. Les parenchymes chlorophylliens, abondants dans les feuilles et les organes aériens, contiennent de nombreux chloroplastes et sont le siège de la photosynthèse. Les parenchymes amylifères ou parenchymes de réserve sont abondants dans les organes souterrains. Les cellules parenchymateuses peuvent encore, sous l'influence de divers stimulus, se dédifférencier et se transformer en un autre type cellulaire. Deuxième tissu. L'épiderme. C'est une assise de cellules couvrant les tiges, les rameaux et les feuilles. Il protège ses organes contre la dessiccation et les agressions extérieures, et règle les échanges gazeux avec l'atmosphère. Les cellules épidermiques sécrètent sur leur face externe une cuticule constituée de composés lipidiques hydrophobes, principalement des cires, rendant la surface non mouillable. Les stomates sont formés de cellules spécialisées dont les parois s'épaississent et se clivent pour ébaucher un orifice, l'ostiole, communiquant avec la chambre sous-stomatique. Ces cellules contrôlent les échanges gazeux entre le milieu et l'intérieur de la plante en modifiant les dimensions de l'ostiole selon le potentiel hydrique, la lumière et la teneur en dioxyde de carbone. Troisième tissu. Le colenchyme. C'est le tissu de soutien des jeunes organes en croissance. En position périphérique, il se forme précocement en cordon de cellules appelées colocytes dont les parois s'épaississent en restant polysaccharidiques. Le colenchyme est résistant, extensible et permet l'élongation de l'organe. On distingue le colenchyme angulaire, le colenchyme annulaire et le colenchyme tangentiel. Quatrième tissu. Le sclérenchyme. C'est un ensemble de cellules de soutien, les sclérocytes, ayant en commun une paroi qui leur confère une grande dureté. La cellule ajoute à sa paroi primaire une paroi secondaire de fibrilles de cellulose très serrées. L'ensemble se sclérifie ensuite, c'est-à-dire s'imprègne de lignine, devenant inextensible et résistant à la compression. Les sclérocytes les plus longs sont les fibres. Certaines espèces fournissent des textiles de qualité comme le lin, ou des éléments de cordage comme le chanvre. Cinquième tissu. Les tissus conducteurs. Le xylème et le phloème forment le système vasculaire. Le xylème, ou bois, assure le transport de la sève brute, c'est-à-dire une solution aqueuse très diluée de sels minéraux. Il est constitué de cellules mortes lignifiées dont les principaux éléments sont les trachéides et les vaisseaux. Chez les gymnospermes, les trachéides assurent à la fois le rôle de conduction et de soutien. Le bois est dit homoxylé. Chez les angiospermes, les fibres assurent le soutien et les vaisseaux la conduction. Le bois est dit hétéroxylé. Le phloème, ou libère, assure le transport de la sève élaborée riche en substances organiques. Il est constitué de cellules vivantes aux parois transversales criblées, appelées cellules criblées. Chez les angiospermes, chaque cellule criblée est associée à une cellule compagne issue de la même division cellulaire. Deuxième section. Les zones génératrices et tissus secondaires. La croissance primaire est suivie d'une croissance secondaire due au fonctionnement des méristèmes secondaires ou zones génératrices. On distingue deux zones génératrices principales. Le cambium produit des tissus conducteurs secondaires, vers l'extérieur le phloème secondaire et vers l'intérieur le xylème secondaire. Il provoque la croissance en diamètre des organes et le port ligneux des espèces arborescentes. L'épaisseur des cernes annuelles dépend des conditions environnementales, ce qui constitue la base de la dendrochronologie, permettant une datation absolue d'objets anciens. Le phellogène, ou zone génératrice subérophélodermique, produit vers l'extérieur le liège, ou subère, et vers l'intérieur le phelloderme. Ces deux tissus forment le périderme, c'est-à-dire le revêtement d'origine secondaire remplaçant l'épiderme. Le subère est un tissu protecteur mort, de faible densité, constitué de cellules jointives dont les parois sont imprégnées de subérine, un composé lipidique imperméable. Des lenticelles permettent les échanges gazeux au travers du périderme. L'accumulation des couches externes subéreuses forme le rétidome, plus ou moins crevassé. Chapitre 5. L'appareil reproducteur, la fleur. Introduction. Chez les angiospermes, l'unité de reproduction est la fleur. C'est un axe spécialisé portant les organes reproducteurs, les étamines et les carpelles, habituellement enveloppés par les organes protecteurs formant le périanthe. La fleur résulte de la métamorphose des feuilles par le mécanisme de l'évocation florale. Première section. Organisation de la fleur. Le périanthe d'une fleur présente un calice, formé de pièces externes généralement vertes appelées sépales, et une corolle, formée de pièces internes colorées appelées pétales. Les pigments variés sont responsables de la coloration. Les anthocyanes donnent les couleurs rouge, rose, violet et bleu, les flavonoïdes donnent le jaune, et le blanc indique l'absence de pigments. L'androcée est formée par l'ensemble des étamines d'une fleur. Une étamine est généralement constituée d'une anthère à deux sacs polliniques portés au sommet d'un filet. Dans chaque loge, les cellules mères diploïdes subissent une réduction chromatique et donnent des cellules haploïdes qui évoluent chacune en grains de pollen, dont le noyau se divise en un noyau reproducteur et un noyau végétatif. La paroi du grain de pollen est double et imprégnée de chitine, sa surface présente des pores germinatifs et une ornementation d'une extraordinaire diversité. Le gynécée, du grec gyné signifiant femme, ou pistil, est formé par l'ensemble des carpelles. Un carpel est constitué d'un ovaire, d'un style et d'un stigmate récepteur du pollen. L'ovule, de taille très réduite à l'épanouissement de la fleur, a une structure complexe. Un ou deux téguments enveloppent une masse de tissu dans laquelle s'est individualisé le sac embryonnaire, formé de 8 cellules. 3 cellules du côté du micropyle dont la médiane est la cellule fertile entourée de 2 synergides, 3 cellules antipodes du côté opposé, et 2 cellules formant le noyau central de l'ovule. La formule florale des monocotylédones est de type trimère. 3 sépales plus 3 pétales plus 6 étamines plus 3 carpelles. Celle des dicotylédones est de type pentamère. 5 sépales plus 5 pétales plus 10 étamines plus 5 carpelles. Deuxième section. L'inflorescence. La fleur est rarement solitaire. Les inflorescences à croissance continue de l'axe principal sont dites indéfinies. La grappe aux fleurs pédonculées, le corymbe aux fleurs dans un même plan horizontal, l'ombelle dont les pédoncules partent d'un même point, l'épi aux fleurs sessiles, le spadis qui est un épi enveloppé par une spathe, et le capitule à plateau portant des fleurs sessiles. Les inflorescences à axe principal à croissance définie sont les cymèses. Troisième section. Caracteres generaux de la fleur. Une fleur est actinomorphe lorsque ses pièces florales sont disposées symétriquement par rapport à son axe, symétrie radiaire. Elle est zygomorphe si elle n'admet qu'un seul plan de symétrie. Les fleurs hermaphrodites contiennent à la fois étamines et carpelles. Les fleurs unisexuées nous montrent que les étamines, on dit qu'elles sont mâles, ou que les carpelles, on dit qu'elles sont femelles. Un individu végétal portant à la fois fleurs mâles et femelles est dimonoïque. Il est dit dioïque s'il ne porte que les fleurs d'un seul sexe. Il est dit polygame lorsqu'il porte simultanément des fleurs mâles, femelles et hermaphrodites. Quatrième section. Pollinization. La pollinisation est le transport du pollen des anthères sur le stigmate des pistils. Lorsque le grain de pollen d'une fleur atteint le stigmate de la même fleur, il s'agit d'autofécondation ou autogamie. Lorsque le pollen est transporté vers une autre fleur de la même espèce, on parle de fécondation croisée ou allogamie. Les agents responsables du transport du pollen sont le vent, anémogamie, les insectes, entomogamie, les oiseaux, ornithogamie, l'homme, anthropogamie, les animaux en général, oophilie, et l'eau, hydrophilie. Certains mécanismes gênent l'autofécondation chez les fleurs hermaphrodites. La maturation décalée des organes mâles et femelles, protandrie quand les mâles mûrissent en premier, protogynie dans le cas inverse, des dispositions spatiales gênantes, ou l'incompatibilité entre pollen et stigmate de la même fleur. Cinquième section. Fécondation et formation des graines. Une fois parvenu sur le stigmate, le grain de pollen germe en formant un tube pollinique qui traverse le style et atteint l'ovule. Le noyau reproducteur se divise en deux noyaux philhaploïdes. L'un fusionne avec la cellule fertile pour donner un œuf diploïde qui se développe en embryon. L'autre fusionne avec les deux noyaux du centre pour former une cellule triploïde, qui se différenciera en albumène, tissu de réserve. Il s'agit d'une double fécondation, exclusive aux angiospermes. L'ovule se transforme ensuite en graine, dont les téguments modifiés jouent un rôle de protection. L'embryon entre en vie ralentie jusqu'à la germination. Sixième section. Formation du fruit. La fécondation déclenche la transformation de l'ovaire en fruit, dont la paroi évolue en péricarpe. On distingue les fruits secs indéhissants, comme les akènes à graines uniques et péricarpe sec qui ne s'ouvre pas, ou le caryopse dégraminé, qui est un akène à péricarpe soudé au tégument de la graine. Les fruits secs déhissants, ou capsules, contiennent de nombreuses graines et s'ouvrent par des zones de discontinuité. On distingue le follicule, qui s'ouvre par une seule fente ventrale, et la gousse, qui s'ouvre par deux fentes, ventrale et dorsale. Les fruits charnus comprennent les baies à péricarpe entièrement charnues et les drupes dont la couche la plus interne, l'endocarpe, est dure et forme un noyau. On distingue également les vrais fruits provenant uniquement de l'ovaire, et les faux fruits qui dérivent également de d'autres parties de la fleur, comme la fraise ou la pomme. La dissémination des fruits et graines est assurée par le vent pour les samares et les akènes à aigrette, par les animaux par accrochage externe ou transport interne après ingestion. Septim section. Cycle de développement et multiplication végétative. Les apports fondamentaux des angiospermes à l'évolution sont la fleur, l'ovaire et ses fruits, et l'albumen, tissu de réserve polyploïde. La multiplication végétative naturelle comprend le bouturage, le marcottage et le drageonnage. La multiplication végétative artificielle comprend le greffage et la culture de cellules végétales ou de méristèmes, relevant de la biotechnologie végétale. Chapitre 6. Reproduction chez les plantes à cônes, les gymnospermes. Introduction. Les gymnospermes sont des spermaphytes dont les organes reproducteurs sont souvent représentés par des cônes. Les gymnospermes actuels typiques sont essentiellement représentés par les conifères, comptant environ 5000 espèces. Première section. Appareil végétatif. Tous les conifères sont des ligneux se fixant au sol par un puissant système racinaire. Ce sont des arbres comme les pins, cèdres et séquoias, ou des arbustes comme les genévriers. Leur bois est homoxylé. Les trachéides assurent à la fois le rôle de soutien et de conduction de sève. Ils possèdent en général des canaux à résine qui leur donnent une odeur caractéristique, justifiant leur appellation de résineux. Ils fournissent un bois très exploité, représentant les deux tiers des bois industriels mondiaux. Les feuilles peuvent être en aiguilles, pins, mélèzes, cèdres, linéaires aplatis, sapins, ifs, ou en écailles appliquées sur la tige, cyprès, thuya. Elles sont fonctionnelles pendant 2 à 4 ans. Certains séquoias peuvent atteindre 120 mètres de hauteur avec une longévité pouvant aller jusqu'à 3000 ans. Deuxième section. Reproduction. Certains conifères ont des fleurs unisexuées et monoïques, comme les pins et les sapins, d'autres sont dioïques, comme les ifs. Les organes reproducteurs sont sous forme de cônes. Les fleurs mâles forment de petits cônes constitués d'étamines portant 2 à 20 sacs polliniques. Les fleurs femelles sont groupées en cônes constitués de carpelles portant 1 à 3 ovules nus. La pollinisation se fait toujours par le vent, c'est l'anémogamie. La fécondation se fait par siphonogamie, c'est-à-dire que le tube pollinique conduit les noyaux reproducteurs jusqu'à l'oosphère, à la différence de la zoïdogamie où les gamètes nagent dans un milieu liquide pour atteindre l'oosphère. Il n'y a pas de double fécondation chez les conifères, et donc pas d'albumen. C'est le protalhaploïde ou endosperme qui se charge des réserves. Les conifères sont peu exigeants et se contentent de sols pauvres et de climats rudes, ce qui les rend abondamment utilisés comme essence de reboisement. Note sur les spermaphytes primitifs, ou préphanérogames, représentés par les cycadophytes et les gingophytes. Chez eux, le tube pollinique s'éclate et libère des gamètes ciliés qui nagent dans un liquide sécrété par l'ovule pour atteindre l'éosphère. C'est la zoïdogamie. Les ovules sont de grande taille car les réserves sont constituées avant la fécondation. Il n'y a pas de dormance de la graine, qui germe immédiatement. Deuxième partie. Organisation des plantes sans fleurs. Chapitre 7. Algues et champignons. Introduction. Les algues, ou phycophytes, sont des thallophytes chlorophylliens, c'est-à-dire des organismes capables de faire la photosynthèse. Ce sont des organismes typiquement aquatiques et constituent le premier maillon des chaînes alimentaires, producteurs sur environ 7/10 de la surface du globe. Elles sont rares en milieu aérien. Les algues flottantes, le pélagos, sont généralement microscopiques et unicellulaires, productrices du phytoplancton. Les espèces qui se fixent au fond sont appelées phytobentos. Les algues ont des couleurs variées liées à leurs pigments. Les algues vertes contiennent de la chlorophylle A et B. Les algues brunes élaborent des caroténoïdes qui dissimulent la couleur verte. Les algues rouges élaborent deux protéines colorées, la phycoérythrine rouge et la phycocyanine bleue. Les champignons, ou mycophytes, sont des thallophytes dépourvus de plastes et donc de chlorophylle. Ils sont hétérotrophes, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent comme les animaux. Ils synthétisent fréquemment de la chitine dans leurs parois au lieu de la cellulose, et mettent les glucides en réserve sous forme de glycogène, comme dans les cellules animales. Première section. Les algues. Premier exemple. Le Chlamydomona. Il s'agit d'une algue verte unicellulaire appartenant au plancton d'eau douce. La cellule est mobile grâce à deux flagelles. Le volume cellulaire est essentiellement occupé par un chloroplaste incurvé en forme de cloche, à la base duquel se trouve un gros pyrénoïde entouré de grains d'amidon. Un stigma, comparable à un œil primitif, est situé sous la paroi et participe aux réactions photosensibles en orientant les déplacements par rapport à la lumière. Grâce à son plaste et ses flagelles, le Chlamydomona réunit les caractéristiques végétales, la photosynthèse, et animales, la locomotion. Deuxième exemple. Les diatomées. Les diatomées sont largement répandues dans les eaux. Douces et salées. Elles comptent de 10 000 à 12 000 espèces et représentent 20 à 25% de la production primaire nette océanique mondiale. Leurs cellules portent une paroi siliceuse, le frustule, constitué de deux valves inégales qui s'emboîtent l'une dans l'autre comme une boîte de pétri. On distingue les diatomées centrales à symétrie axiale et les diatomées pénales à symétrie bilatérale. Les frustules résistent à la putréfaction et s'accumulent au fond des océans, donnant naissance à des roches siliceuses comme les diatomites. Troisième exemple. Association de cellules végétales. Les organismes constitués de cellules associées forment les métaphytes. Les plus primitifs sont des agrégats de cellules semblables, les colonies isocellulaires. On distingue les cénobies comme le cénédesmus et le pédiastrum, la pandorine qui est une masse globuleuse de 4 à 16 cellules maintenues par une enveloppe mucilagineuse, les pleurocoques aériens qui forment la poussière verte sur les troncs d'arbres, et les grandes algues brunes comme les fucus, laminaires et sargasses présentant une division du travail physiologique très poussée. Les thalles des algues présentent plusieurs formes. Les thalles filamenteux résultent de divisions cellulaires dont les plans sont toujours orientés dans la même direction. Les thalles membraneux dérivent de structures filamenteuses dont les cellules s'organisent en lames. Certaines algues encroûtantes sécrètent du calcaire qui se dépose dans leurs parois, donnant au thal un aspect minéral. Le thal cladomien est une association de deux sortes de filaments, un axe à croissance indéfinie et des rameaux latéraux à croissance limitée. Cette structure évoque celle d'un rameau feuillé de plantes supérieures. Les characées représentent une famille d'algues vertes d'eau douce relativement évoluée. L'analyse moléculaire indique que ce groupe serait à l'origine des plantes terrestres vasculaires. La reproduction sexuée des algues présente une grande diversité. L'isogamie est la fusion de gamètes morphologiquement identiques, comme chez le chlamydomonas. L'anisogamie est la fusion de deux cellules sexuelles de taille différente, dont la forme la plus évoluée est l'oogamie où les spermatozoïdes sont petits et nageurs tandis que les oosphères sont volumineuses et immobiles. La planogamie correspond à une fécondation impliquant au moins un gamète flagellé et actif. La cystogamie est un mode de fécondation où les gamétocystes eux-mêmes fusionnent, adapté à la vie aérienne car il ne nécessite pas de phase liquide. Le fucus vésiculeux est un exemple classique de reproduction sexuée chez les algues. Les gamètes mâles, spermatozoïdes, et femelles, oosphères, sont produits par des thalles différents dans des structures spécialisées appelées gamétocystes. La fécondation donne un œuf qui se développe en thalle adulte diploïde, et la méiose ne se produit que lors de la gamétogenèse. Deuxième section. Les champignons. Les champignons ont essentiellement pour rôle le recyclage de la matière organique. On distingue trois modes de vie. Les saprophytes se nourrissent de matières organiques mortes et participent à la formation de l'humus. Les parasites vivent aux dépens des organismes vivants et causent des dégâts considérables aux plantes cultivées et aux animaux. Les symbiotiques établissent avec d'autres espèces un équilibre à bénéfice réciproque. Premier point. Le thal ou mycélium. Le mycélium représente l'appareil végétatif des champignons. Les hyphes, filaments qui le constituent, s'accroissent par leur extrémité et peuvent atteindre plusieurs mètres de longueur par heure dans des conditions favorables. Le mycélium se ramifie soit par dichotomie de l'apex, soit par bourgeonnement de filaments latéraux. On distingue le mycélium saprophyte, le mycélium symbiotique ou mycorhize, qui est une association entre mycélium et une racine, et le mycélium parasite, qui s'introduit dans les tissus de l'hôte pour détourner à son profit les produits du métabolisme. Une mycorhize ectotrophe forme un manchon autour des racines, tandis qu'une mycorhize endotrophe pénètre à l'intérieur des cellules racinaires. Deuxième point. Les lichens ou organismes doubles. Un lichen est une association permanente et stable entre un champignon et une algue unicellulaire. Le mycélium du champignon assure le support et la protection, tandis que les cellules algales autotrophes permettent une autonomie nutritionnelle. Les lichens sont des indicateurs de pollution. Leur disparition est signe d'une atmosphère viciée. Troisième point. Les ascomycètes. Chez les champignons supérieurs, la reproduction sexuée se réalise en deux temps. La fusion des cytoplasmes, ou plasmogamie, ne suit pas immédiatement la fusion des noyaux, ou cariogamie. Une phase de cellules à deux noyaux, la dicariophase, s'intercale. À la suite de la cariogamie, la méiose produit des spores haploïdes dans des structures spécialisées. Ce sont des asques chez les ascomycètes, qui produisent des ascospores internes, et des basides chez les basidiomycètes, qui portent des spores à leur extrémité. Les ascomycètes les plus utiles à l'homme comprennent les levures exploitées pour leur capacité de fermentation alcoolique des sucres, utilisées en boulangerie, vinification et brasserie, les moisissures servant à la fabrication de fromages comme le Roquefort, et les sources de pénicilline découvertes par Sir Alexander Fleming. Quatrième point. Les basidiomycètes. Ce sont des champignons dont les plus familiers sont les champignons à chapeau. L'appareil de fructification, ou carpophore, est massif et de forme très caractéristique. À maturité, il comporte un pied et un chapeau sous lequel se trouve l'hyménium, producteur des basides et des basidiospores. On distingue trois types principaux selon les modalités de développement. Les hémiangiocarpes comme les amanites et les coprins dont l'hyménium est d'abord clos, les gymnocarpes comme la girole dont l'hyménium est nu dès l'origine, et les angiocarpes comme les lycoperdons ou vaisse de loup dont les carpophores ne s'épanouissent pas. L'amanite phalloïde est responsable de 90 à 95% des empoisonnements mortels causés par les champignons. Ses principes toxiques sont des polypeptides cycliques. La phalloïdine fragilise les membranes cellulaires en détruisant les lysosomes, et l'amatoxine perturbe la synthèse d'ARN en détruisant les nucléoles, affectant profondément le fonctionnement des cellules, notamment celles du foie et des reins.